Nous ouvrirons la parole de Dieu et nous prendrons le texte de Jérémie au chapitre 32, les versets 6 à 15. Jérémie dit : Voici la parole que l'Éternel m'a adressée. Hanamel, le fils de ton oncle Shalom, va venir te trouver pour te demander d'acheter son champ qui se trouve à Anatote, car tu as un droit de rachat pour l'acquérir. Effectivement, Hanamel, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison, conformément à la parole de l'Éternel, et m'a dit « Je t'en prie, achète-moi mon champ qui se trouve à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc. » J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. J'ai donc acheté le champ de Hanamel, le fils de mon oncle qui est à Anatote, et je lui ai pesé l'argent, soit 17 pièces d'argent. J'ai écrit un contrat, l'ai cacheté devant des témoins, puis j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat de vente qui était cacheté, avec ses dispositions générales et ses clauses, ainsi que celui qui était ouvert. J'ai remis le contrat de vente à Baruch, fils de Neridja et petit-fils de Makseja, en présence de Hanamel, le fils de mon oncle, des témoins qui avaient signé le contrat de vente et de tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de la prison. Devant eux, j'ai donné cet ordre à Baruch. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Prends ces documents, le contrat de vente qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans le vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Enfin, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une fois de plus un bonheur d'être parmi vous et de partager la parole de Dieu. Je voudrais vous dire aussi que nous avons passé une excellente semaine depuis la dernière fois que nous sommes vus, que nous avons pu voir des choses absolument magnifiques et que nous allons retenir certainement encore longtemps notre séjour parmi vous. Dans le texte qui vous a été lu, vous avez sans doute vu simplement un contrat d'achat, une transaction. Eh bien, il se trouve que ce passage-là recèle des trésors et va nous aider à nous faire une idée plus particulière du livre de vie. Et j'aimerais vous entraîner ce matin dans une réflexion sur le livre de vie, mais très ancrée sur l'archéologie. Et assez curieusement, les données archéologiques que nous pouvons avoir vont nous aider à mieux comprendre ce qu'est ce livre de vie. Le premier constat que nous pouvons faire de ce livre de vie est assez contradictoire. Vous connaissez tous ces textes où Moïse dit « Efface-moi de ton livre que tu as écrit » ou « Celui qui vaincra dans la lettre à Sardes, je n'effacerai point son nom du livre de vie » Et donc, on a la notion d'un livre de vie ouvert. Et puis, l'Apocalypse nous donne une autre notion que j'aimerais examiner avec vous, c'est que c'est un livre scellé. Et si c'est un livre scellé, bien évidemment, on ne peut pas l'ouvrir et on ne peut pas, au moins au départ, au moins tant qu'il n'est pas décellé, effacer ou ajouter des noms. Alors, regardons-le ensemble, si vous voulez, au chapitre 13 d'Apocalypse. Et tous les versets 8. et tous les habitants de la terre l'adoreront. Alors, il s'agit de la bête, là, hein, adoreront la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et nous avons là une définition du livre de vie de l'agneau immolé qui est extrêmement étonnante. Le texte nous dit en clair qu'il y a des personnes qui, depuis la fondation du monde, n'ont jamais été écrites dans le livre de vie. Et vous comprenez évidemment que cela pose le problème de la prédestination. Eh bien, nous allons voir comment l'archéologie va nous permettre de résoudre ce problème. Ce livre de vie de l'agneau immolé, il en a été parlé dans le livre de l'Apocalypse avant, au chapitre 5, sans dire que c'était le livre de vie, mais c'est un livre scellé qui va être remis à l'agneau. Et je vous invite à lire ceci au chapitre 5 d'Apocalypse, verset 2, verset 1er déjà. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici. » Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il s'agit donc bien d'un livre scellé qui, finalement, de la main du Père, va aller à l'agneau immolé, qui, bien sûr, est Jésus. Ce livre, le chapitre 13, nous apprend que c'est le livre de vie. Et on comprend mieux pourquoi Jean pleure s'il ne peut être ouvert. Si ce livre ne peut être ouvert, personne ne sera sauvé. Et donc l'enjeu est d'importance. On va voir que l'agneau va ouvrir ce livre. Nous verrons dans quelles conditions. Mon propos maintenant est de concentrer votre attention sur ce livre de vie. Et donc de souligner au départ ce double aspect, un livre ouvert, sur lequel apparemment on peut rayer des noms, peut-être en ajouter, je n'ai pas trouvé de texte qui le dise, à moins qu'ils n'y soient tous au départ. Mais le texte d'Apocalypse 13 nous dit qu'ils n'y sont pas tous au départ. Et donc, voyez, il y a un problème. Alors, je me rappelle qu'au cours de mes études à Collonges, je suis allé trouver mon professeur, en l'occurrence Roberto Badenas. Et je lui dis, voyez, frère Badenas, je crois qu'il y a 2 livres de vie. Alors, il me regarde un peu interloqué. Et je lui dis, voilà, je crois qu'il y en a un qui a été écrit dès avant la fondation du monde par Dieu, sur lequel il n'y a que le nom des élus. Les réprouvés n'y sont pas, les adorateurs de la bête n'y sont pas. Et puis, il y en a un autre, sur lequel il y a tous les noms, et certains seront rayés. Alors, il m'écoute gentiment, posément, comme d'habitude, et il me dit, mais la parole de Dieu ne parle quand même jamais que d'un livre. Il faudrait que vous trouviez un livre qui ait les caractéristiques des 2. Oui, je veux bien, mais c'est contradictoire. L'un est scellé, l'autre ne l'est pas. L'un contiendrait les noms de tous les élus parce que nous sommes tous appelés au salut, mais l'autre ne les contient pas. Cette affaire-là me paraissait contradictoire. Et je suis parti avec cette chose-là, et la suite a prouvé que frère Badenas avait raison. Et je vais donc faire ma dernière année de théologie à Andrews, et là je prends quelques cours d'archéologie. Et parmi les premiers cours, peut-être le premier cours d'archéologie que je reçois, le professeur Storfield nous parle des doubles documents. Alors que sont les doubles documents ? Eh bien, les doubles documents sont des documents, bien sûr, en parchemin ou en papyrus. On verra qu'il y a quelques exceptions. Et qui sont écrits, ou le texte plutôt est écrit deux fois sur la même feuille de papyrus ou de parchemin. Mais la caractéristique de ces doubles documents, c'est qu'une partie est scellée et l'autre n'est pas scellé. Autrement dit, imaginez une feuille sur laquelle vous avez deux fois le texte, mais du même côté de la feuille. La partie haute est scellée. Alors comment on peut la sceller ? On la roule. Et puis vous avez une partie blanche, non écrite, on va dire, entre les deux écritures, et qui est percée de trous. Alors on passe des liens par ces trous, et on scelle la partie haute du document. Non seulement on fait des nœuds, mais on y appose des sceaux au dos. Et souvent, et c'est souvent la seule écriture qui est écrite au dos, les témoins signent au dos, chacun en face de son sceau. Et puis, une fois qu'on a opéré cette chose-là, on continue à rouler le document, les sceaux donc à l'intérieur. Le document est un petit peu aplati et on le range avec d'autres documents. Donc voyez ce qu'est un double document. Et là, je me suis dit, mais peut-être que ça répond à mon problème. Parce qu'il y a une partie scellée, une partie ouverte. Mais est-ce qu'on peut considérer que le livre de vie est un double document ? Et ça a fait l'objet de mon étude. Et je vais essayer de vous livrer quelques éléments de cette étude-là. Alors parlons quelques instants des doubles documents. Ces doubles documents étaient d'abord des contrats. Et quand actuellement vous signez un contrat de location, un contrat d'achat ou de vente, vous laissez une partie du document chez le notaire et c'est ce document-là qui fait foi. Si vous falsifiez le document que vous avez par-devers vous et qu'il y ait contestation entre les parties, à ce moment-là, on va voir ce qu'a écrit le notaire, et c'est le document qui est chez le notaire qui fait foi. Eh bien, avant que les offices notariaux n'existent, les anciens avaient trouvé ce système-là pour garantir un contrat. Alors, vous savez sans doute qu'à l'époque, sur les parchemins ou les papyrus, il était très facile d'effacer. Et il y a des livres entiers qui ont été effacés et réécrits. Et on pouvait donc très facilement falsifier un document. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'était falsifier le document qui était scellé. Et par conséquent, si une contestation survenait entre deux parties, on n'ouvrait pas le document. On allait devant un homme de loi qui lui ouvrait le document, la partie scellée du document, et regardait ce qu'il y avait à l'intérieur du document. Alors, les Romains appelaient la partie scellée la scriptura interior et la partie ouverte la scriptura exterior. Mais vous vous rendez compte que dans cette opération, il ne s'agissait pas de juger de la validité de la transaction ou de la justesse du prix. Il s'agissait de comparer deux écritures et de vérifier si la scriptura intérieure était bien conforme à la scriptura extérieure, auquel cas le document était valable. Vous allez voir que ça va nous servir pour le livre de vie. Quelques précisions, le double document a été utilisé à la période grecque et romaine. Le plus ancien dont nous disposons date de 311 avant Jésus-Christ, a été fait en Égypte sous Ptolémée Ier, un des généraux d'Alexandre le Grand, qui s'est accaparé l'Égypte. Le dernier date de 256 et a été de notre ère et a été trouvé à Doura Europos, qui était une garnison romaine sur le bord de l'Euphrate. En effet, si l'Empire romain a cherché à s'étendre vers le nord, jusque vers l'Angleterre ou jusque vers l'Allemagne, il s'est très peu étendu vers l'Est, et sa limite était l'Euphrate. Et quand cette place forte est tombée, l'Empire romain a été obligé de revenir sur ses pas et de se réduire, et il y a là, dans cette place forte de Doura Europos, on a trouvé plusieurs doubles documents, un petit peu tardifs et un petit peu évolués. Bref, vous voyez à peu près 6 siècles d'utilisation, 3 siècles avant Jésus-Christ, 3 siècles après. Je passe sur l'évolution des doubles documents. Je vous dis simplement une petite anecdote, c'est que ça a servi à un moment donné de certificat pour les soldats romains qui s'affiliaient à un club de gymnastique, en particulier en Égypte. Et donc, si vous voulez, il y avait là des doubles documents qui étaient d'une facture un peu spéciale. C'était en général 2 tablettes de bois reliées entre elles par des liens, par des cordes. Et finalement, ça a pris le nom de diplôme. Et quand vous recevez un diplôme, le « di » de diplôme rappelle que son origine était un double document. Ceci, c'est pour la petite histoire, mais revenons à nos doubles documents. Je reviendrai un petit peu en détail sur le double document, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a probablement dans la Bible, et sans que ce soit dit explicitement, 2 occasions où il est question d'un double document. Et là, ça nous intéresse. La première occasion se trouve dans le texte qui vous a été lu de Jérémie 32. Alors, ce texte de Jérémie 32 a reçu une confirmation historique extraordinaire parce que, figurez-vous, qu'on a retrouvé des sceaux de Baruch. Baruch était un scribe, et c'est le scribe qui est cité dans cette histoire de Jérémie, mais des documents avaient été classé et rangé dans une bibliothèque qui, par la suite, a brûlé. Or, le feu a un intérêt dans le cas présent, parce que si le feu a détruit les documents, le papyrus ou le parchemin, il a cuit l'argile qui a servi pour les sceaux. Et l'argile, le sceau qui aurait été détruit sans cela, nous a été conservé. Et parmi ces sceaux se trouve le sceau de Baruch. Et donc, si vous voulez, Baruch est un personnage historique. Et on a retrouvé plusieurs sceaux de hauts personnages, de dignitaires de l'époque, qui confirment que le livre de Jérémie a été écrit par quelqu'un de cette époque-là, et donc authentifie de manière extraordinaire le livre de Jérémie. Par conséquent, si vous voulez, on a là une histoire qui est sûre. J'aimerais maintenant reprendre les termes de ce contrat. Quand ce texte vous a été lu, probablement vous avez eu le sentiment qu'il y avait 2 contrats. Un contrat qui était scellé et un contrat qui était ouvert. Eh bien, en hébreu, le mot est au singulier. Et je reprends le texte et je reprends devant vous les opérations qui ont été faites au cours de ce texte de Jérémie 32. Verset 9. « J'achetai de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth, et je lui pesai l'argent, 17 sicles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins. » Alors, écoutez bien attentivement. « J'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins. » Et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Évidemment, le traducteur n'a guère pu faire autrement, surtout s'il n'avait pas connaissance des doubles documents, que de traduire ainsi. Mais en hébreu, on pourrait traduire de la manière suivante. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, contrat d'acquisition cacheté conformément à la loi et aux usages, et ouvert. C'est le même contrat qui est cacheté et ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija. Et par conséquent, nous avons là probablement la première indication d'un double document. Ça pose un problème aux archéologues, parce que cette affaire-là, surtout si elle est authentifiée, date, allez, de la fin du VIe siècle, peut-être même du VIIe siècle, hein, avant Jésus-Christ, ou du début du VIe, c'est-à-dire aux alentours de 600 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire 300 ans avant le plus ancien double document que nous connaissons. Et ça pose un problème, parce qu'à ce moment-là, ce ne seraient plus les Grecs qui seraient les inventeurs du double document, mais ce seraient les Juifs. Et donc, vous voyez, la question se pose. Mais la plupart des spécialistes admettent qu'il y a certainement là une forme de double document. Et on trouve le principe même du double document déjà dans les années 2000 avant Jésus-Christ, dans des tablettes babyloniennes. Et il y avait déjà des tablettes babyloniennes qui étaient des doubles documents. Tablettes, comme on les... Vous les connaissez sans doute, et comme vous en avez vu, écriture cunéiforme, et ensuite on recouvrait cette tablette d'une deuxième couche d'argile, sur laquelle on écrivait le même message, qui pouvait s'effacer, qui pouvait s'user, et quand la personne recevait ce message, elle cassait la première enveloppe et lisait le message qui était dessous. Alors l'usage en était un petit peu différent du double document, mais vous voyez, il s'agissait chaque fois de préserver l'intégrité du message qui était donné là. Et puis il y a dans le Talmud babylonien, une allusion à un document beaucoup plus compliqué qui était pratiquement scellé à chaque pli et qui évidemment ne correspond pas à cela, mais on connaissait l'idée de sceller en partie un document. L'idée n'est pas entièrement neuve. Alors j'avance un petit peu dans mon texte et j'aimerais vous faire sentir toute la différence qu'il y a entre un double document et un document simple. J'aurais aimé avoir ces choses-là pour vous les montrer, ce serait plus concret, je suis désolé, mais on va essayer de faire sans. Vous l'avez compris, un double document est écrit deux fois, la partie haute est roulée, scellée en partie, une fois que c'est scellé, on fait signer les témoins, et puis on finit de rouler le document. Dans un document simple, vous avez le texte du document écrit une seule fois, les témoins au bas du document, et c'est l'ensemble du document avec la signature des témoins à l'intérieur qui est roulé et scellé. Si vous voulez bien, compte tenu de cela, Faites bien attention à l'ordre des opérations. Dans un document simple, on écrit le document, on fait signer les témoins et on le scelle. Dans un double document, on écrit le contrat, on scelle le document et on fait signer les témoins en face de chaque sceau. Vous avez noté dans Jérémie ce qui se passe ? Et je vous propose de le relire. Verset 10. J'écrivis un contrat et je cachetai, scellé. Je pris des témoins, troisième opération, et je pesais l'argent dans une balance, c'est encore une quatrième opération. L'ordre des opérations qui nous est donné là est en soi déjà une indication qu'il s'agit très probablement d'un double document. Alors voyez, ce texte n'a l'air de rien, mais il nous donne des indications précieuses. Notez au passage, parce que ça nous servira, que c'est un contrat de rachat. Contrat de rachat, ça va nous servir. Le deuxième texte qui nous intéresse, évidemment, touche à l'Apocalypse. Et c'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Alors revenons à Apocalypse 5 et voyons ce que ce texte a à nous dire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de sept sceaux. Peut-être que certaines traductions sont un peu différentes, mais quand vous lisez un texte comme ça, vous avez l'impression que le texte est écrit sur le papyrus ou le parchemin recto verso. Or, il n'en est rien. La traduction, si vous voulez, rend des choses symétriques, mais ça n'est pas le cas en grec. Le grec dirait strictement, il était écrit à l'intérieur et au dos. Ésotène à l'intérieur et opisthène au dos. Si l'auteur avait voulu dire recto verso, il aurait employé des contraires naturels. Je vous dis, pour vous dire des deux faces, recto verso. Je pourrais vous dire à l'intérieur, à l'extérieur. De face, de dos. Vous avez là des contraires naturels. Eh bien, dans le texte grec, nous n'avons pas là des contraires naturels. Par conséquent, le texte veut dire autre chose. Et opisto, qui signifie au dos, signifie aussi après. Et donc compatible avec un double document. Mais vous avez surtout un élément extrêmement intéressant. Et je vous invite à le lire au verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Oh, la semaine dernière, je vous ai dit que chaque mot était important dans ce texte. Je vais vous montrer que même l'ordre des mots est important. Qui est digne, lisons-nous, d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux ? Si vous avez un document simple, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir le livre ? Il faut rompre les sceaux. Et l'ordre naturel des opérations serait de dire qui est digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Mais si c'est un double document, il faut commencer par ouvrir le livre jusqu'au sceau, c'est-à-dire d'ouvrir la partie ouverte, puis de rompre les sceaux pour pouvoir ouvrir la partie scellée. Et donc ce texte, indirectement, est en train de nous dire que nous sommes probablement en face d'un double document. Ça n'est pas un hasard. Parce que si vous allez au verset 5, vous avez la même chose. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Nous sommes donc certainement en présence d'un double document. Le livre de vie est un double document. L'idée avait été avancée déjà par plusieurs auteurs allemands dans les années 1920, et puis l'idée a été abandonnée, et je la reprends à mon compte, et d'autres sans doute le font aussi. Mais qu'est-ce que ça apporte ? Si je vous dis le livre de vie est un double document, qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui ? Eh bien, moi, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses, et en particulier ces textes comme Apocalypse 13, 8, qui semblent nous parler de prédestination. Et en effet, il y a un détail que je ne vous ai pas dit. Et je conclurai là-dessus, mais je peux vous dire qu'il y a bien d'autres domaines vers lesquels on peut aller à partir de cette notion de double document. Au début, quand on a découvert ces doubles documents, et on en a découvert en grec, en latin, en hébreu, on en a découvert en nabatéen, et en particulier, on a découvert plusieurs documents en hébreu dans les archives de Babata. Alors, Babata était une personne qui était contemporaine de Jean, hein, fin du 1er siècle, et qui a gravité autour de ce leader juif qui a mené la deuxième révolte juive, un certain Bar Kokhba, dont la révolte a été écrasée par l'empereur Adrien en 135 de notre ère. Eh bien, dans ces archives-là, que l'on a retrouvées pas très loin des manuscrits de la Mer Morte, dans une autre grotte dans la même région, ces archives, si vous voulez, recèlent à peu près une trentaine de doubles documents en hébreu et en nabatéen. Ce que je ne vous ai pas dit, donc, c'est la chose suivante. On s'est rendu compte que la partie haute, la partie scellée du document, était écrite après la partie basse. Et ça, ça change tout. Et je vous explique pourquoi. Quand des personnes venaient trouver le scribe pour établir un contrat, il pouvait y avoir au dernier moment des arrangements de dernière minute. Et alors qu'on avait écrit le texte en bas de la feuille, on pouvait encore apporter des modifications. Et parfois, c'était raturé, rayé. Ça va nous rappeler les noms rayés. Et par exemple, un champ était vendu 18 pièces d'argent. On pouvait rayé et mettre 17. Mais qu'y avait-il en haut après ? Une fois qu'on s'était mis d'accord complètement sur le prix et sur les conditions, alors ce qui était en haut, c'était la version définitive. Et si en bas on avait 18 rayé 17, en haut on avait 17. Et donc comme ça, on a eu la preuve que le texte d'en haut était écrit après. Quelle importance pour nous. Si je me reporte au livre de vie, voyez, il y a deux aspects dans le livre de vie. Il y a ce que Dieu a écrit dès avant la fondation du monde. Et lui sait à l'avance qui sera sauvé. Dans cette partie scellée, qu'il n'a fait connaître à personne, pas même à ses anges, il y a le nom des élus. Sur la partie basse, il y a le nom de tous, parce que nous sommes tous appelés au salut. Mais certains noms seront rayés. Et quand on va ouvrir ce livre de vie, quand on aura fait sauter le dernier sceau, et qu'on pourra voir ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir que les deux listes sont identiques. C'est-à-dire que Dieu savait à l'avance ce que seraient les choix de chacun. Dieu n'est pas surpris par nos choix. Alors j'en vois déjà se lever et dire « Mais si c'est écrit, qu'est-ce que je peux faire ?» Je ne peux pas lutter contre cela. Qu'ai-je donc, est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Est-ce que j'ai besoin de... Puisque de toute façon, c'est écrit, Mektoub, c'est écrit. Mais non. Et c'est là que l'archéologie va nous aider. Ce qui est écrit à l'intérieur, c'est-à-dire ce que Dieu a écrit dès la fondation du monde, ça n'est pas ce qui détermine nos choix. Ce sont nos choix aujourd'hui, ce sont nos vies qui déterminent ce que Dieu a écrit dès avant la fondation du monde. Ça n'est donc pas une prédestination au sens où nous l'entendons, c'est une préconnaissance de Dieu. Et voilà comment les doubles documents vont nous permettre de comprendre que si Dieu sait à l'avance ce que seront nos choix, il le sait sans pour autant déterminer à l'avance ce que seront nos choix. Nos choix, ce sont réellement nos choix. Dieu les connaît, Dieu les a écrits, mais les a scellés, de telle sorte que les dés ne soient pas pipés, si j'ose dire. Et j'aimerais, si vous voulez vous dire, qu'il n'y a pas, dans toute la parole de Dieu, de choses qui puissent nous faire croire que nous sommes prédestinés et que notre sort est fixé, quoi que nous fassions. C'est ce que sont nos choix qui fixent la préconnaissance de Dieu. J'aimerais, dans les quelques minutes qui me restent, ouvrir un autre aspect. Ce livre qui est là, dans Apocalypse 5, c'est un contrat de rachat. Je vous propose de le lire au verset 9. Et il chantait, alors il s'agit de 24 anciens et des 4 êtres vivants, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Si l'agneau a acquis le droit d'ouvrir ce livre, c'est parce qu'il a racheté ce livre. » C'est son droit de rachat. C'est-à-dire que dès avant la fondation du monde, et permettez que je prenne encore l'image, tout en vous disant que très certainement ce n'est pas sous la forme d'un livre avec des feuilles que ce livre-là est signé, je ne sais pas quelle forme physique il a, mais permettez que je continue à employer l'image que nous donne le texte. Dès avant la fondation du monde, un livre a été signé entre Dieu, le Père et le Fils. Et ce livre, c'est un contrat de rachat. J'aimerais vous faire sentir toute la différence qu'il y a, pour définir le livre de vie, entre une liste de noms, et nous imaginons d'habitude le livre de vie comme une liste de noms, et un contrat de rachat. Dans un contrat, vous avez la description du bien qui est racheté, mais vous avez les clauses du rachat, vous avez le prix du rachat. Et tout cela se trouve dans ce livre de vie. Et quand l'agneau va se présenter devant le Père, qu'on va lui remettre ce livre, c'est son livre de propriété, c'est son livre de rachat, le livre par lequel il peut dire « Ce peuple est à moi ». Et il vient le prendre et il vient le protéger. Alors, je ne peux pas continuer parce que j'ai déjà dépassé le temps et je vous prie de m'en excuser, mais c'est un sujet qui m'a passionné. Et j'aurais aimé qu'il vous passionne de la même manière, parce que c'est une manière de nous montrer qu'avant même que nous ayons été créés, Dieu avait prévu, avait signé, si vous me permettrez cette comparaison avec le Fils, ce contrat par lequel il nous rachetait et par lequel il se proposait de nous racheter tous, tout en sachant que certains, déjà à ce moment-là, tout en sachant à ce moment-là que certains ne répondraient pas à son appel. Ce n'est pas lui qui l'a décidé, ce sont nos choix. Et bien que Dieu nous aide non seulement à faire de bons choix, mais à les faire avec cette perspective que Dieu nous a aimés avant même que nous n'existions. C'est un des enseignements principaux que je tire de ce livre de vie un peu particulier et que je vois désormais comme un double document.